Dans l'épisode précédent...
Et les gars de Iron Butterfly, groupe que je n'aimais pas de toute façon, je n'avais pas fait appel à eux. Bref, ils m'ont envoyé un télégramme et il y avait écrit... Et là, c'est bien avant les téléphones portables. Hein. Et dans le télégramme, il y avait écrit « On arrivera à l'aéroport de New York, vous nous enverrez un hélicoptère, on arrivera directement sur le lieu du concert, immédiatement on montera sur scène et après le concert, on repart directement. » Et moi, j'ai dit, ouais, c'est ça. Alors, j'ai parlé à la petite dame de Western Union et je lui ai dicté le télégramme suivant. J'ai dit, allez vous faire foutre. Et j'ai appelé F-U-C-K, plus loin, Y-O-U. Voilà.
Ladies and gentlemen, if you please.
France Inter et la RTBF. Trip.
How are you out there? Are you gonna be okay?
Woodstock, 1969.
We must be in heaven, man!
Mishka Assayas.
Alors aujourd'hui, c'est le grand jour, celui où, traversant les 50 États-Unis d'Amérique, court la bonne nouvelle. Un festival de musique en pleine nature va avoir lieu, le plus beau, le plus grand qu'on ait jamais vu. Et c'est le troisième volet de notre série. Happy Day, un gospel qui a fait le tour du monde en cette année 1969, un hymne baptiste, à l'origine ici interprété par la voix grave de contralto de la californienne Dorothy Combs Morrison, accompagnée par une chorale de 50 jeunes chanteurs et chanteuses, dirigée par un certain Edwin Hawkins, qui était le chef d'orchestre d'un temple baptiste situé à Berkeley, à la ville universitaire qui jouxte San Francisco. Un DJ d'une radio locale était tombé dessus par hasard et en avait fait un succès dans la région. Puis c'était devenu national et puis ensuite c'était devenu international. Oh Happy Day, attribué donc aux Edwin Hawkins Singers. Alors le 15 juillet 1969 est de fait un jour particulièrement heureux pour les organisateurs du festival de Woodstock. Je vous en ai parlé lors de l'épisode précédent. Ils cherchent alors désespérément un lieu pour organiser cet événement sans précédent qui s'annonce énorme après que la municipalité de Walk Hill, située au sud du village de Woodstock, vient de brutalement poser son veto. Il leur reste juste un mois pour trouver une solution et providentiellement, un sauveur survient. Max Yasger, un éleveur et fermier de White Lake, c'est une localité située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest, a accepté, moyennant finances évidemment, de prêter son pâturage à ce rassemblement qui commence à faire sérieusement peur. On va y revenir. On annonce donc pour les 15, 16 et 17 août une Aquarian Exposition à White Lake. On n'a pas eu le temps de corriger l'affiche, c'est toujours le festival de Woodstock. Et 3 jours de paix et de musique. Le programme précise que se tiendront là une exposition artistique et un marché artisanal et qu'il y aura des stands de nourriture et qu'on jouira, je cite, de centaines d'hectares pour se balader. Alors l'adjectif Aquarian se réfère à l'entrée de l'humanité dans l'ère du Verseau. Selon en effet une conception astrologique qui est en vogue dans ces années-là, empreinte d'un certain mysticisme, d'ailleurs c'est un thème que la comédie musicale Hair a popularisé grâce à la chanson The Age of Aquarius, on va l'attendre tout à l'heure, patience, et bien selon cette conception, l'humanité est au seuil d'une nouvelle ère. Il est précisé que la musique commencera à 16h le vendredi. Alors la liste des groupes et des chanteurs, elle est indiquée en bas, à gauche de l'affiche, en assez petits caractères, sans nulle hiérarchie ni ordre de présence. Chacun, de l'inconnu Burt Sommer à l'illustre Jimi Hendrix, en passant par Joan Baez, Jefferson Airplane, Grateful Dead et les Who, est logé à la même enseigne. Seul est mentionné le jour où les artistes vont se produire. La célébration de la paix, en fait, prime sur la musique qui en est, en quelque sorte, l'accompagnement. On croit savoir que Bob Dylan sera présent, c'est totalement infondé, il n'est aucunement annoncé. Le dessin de l'affiche, sur fond rouge, représente le manche d'une guitare folk ou des doigts anonymes sur, on l'imagine, d'un chevelu rêveur, plaquent un accord si doux qu'une blanche colombe s'est posée sur le manche. Tout est prêt pour que le rêve prenne vie. Et la saison est propice, comme le chantent cette année-là les Zombies, c'est un groupe anglais, un groupe londonien déjà oublié dans son pays, et qui vient d'enregistrer au studio de Abbey Road, à Londres, sur ses propres deniers, un album Odyssey and Oracle, qui n'a pas trouvé preneur et qui, autre miracle de cette année-là, vient d'être sauvé par le pianiste américain Al Cooper, accompagnateur occasionnel de Bob Dylan, qui de passage à Londres l'a découvert par hasard et s'est enthousiasmé. Les Zombies, Time of the Season, un des tubes de l'année 69 aux États-Unis. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why.
your daddy, who's your daddy? Here is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you.
Et la RTBF. Very good trip. Woodstock 1969.
It's Your Thing, un des actes de naissance de ce qu'on a appelé le funk, un style qui a succédé à la soul et dont James Brown a été bien sûr l'incarnation la plus aboutie, la plus connue. Une chanson interprétée en 69, ça a d'ailleurs été un tube par les Isley Brothers, un excellent groupe de la région de New York, composé, bah, comme son nom l'indique, de trois frères qui s'appelaient les Isley Brothers. Ils ont abordé tous les styles, y compris d'ailleurs le folk rock californien, mais toujours avec une fougue et un élan très communicatif. Et Ronald Isley a certainement été un des meilleurs chanteurs soul et funk en activité durant cette période. D'ailleurs, cette chanson, It's Your Thing, a été reprise plusieurs fois par les Temptations et les Jackson 5 avec un très jeune Michael Jackson, et même d'ailleurs par Led Zeppelin sur scène. Alors oui, dit comme ça, Three Days of Peace and Music, hein, trois jours de paix et de musique, ça a l'air extrêmement sympathique et inoffensif, mais en fait, pas du tout. En cet été 69, célébrer la paix aux États-Unis et dans le reste du monde, ça n'a rien d'une platitude aimable. C'est même, quand on y réfléchit, un acte de défi. C'est vrai, l'affrontement avec le bloc soviétique a poussé le gouvernement démocrate des États-Unis à envoyer dès 1964 des troupes au sol au Sud-Vietnam, menacées par une invasion du Nord, soutenue et armée par les soviétiques, qui sont bien sûr communistes à l'époque. Beaucoup de jeunes conscrits se retrouvent engagés dans une guerre qui fracture l'opinion. Ils sont très nombreux à vouloir y échapper et aux yeux de beaucoup d'Américains, ces garçons-là sont des fuyards et des déserteurs. Il y en a carrément qui déchirent leurs papiers militaires, il y a des objecteurs de conscience qu'on jette en prison, comme David Harris, le mari de Joan Baez. Donc, célébrer la paix, en particulier au Vietnam, est ainsi considéré par ceux de l'autre camp comme un acte antipatriotique. Alors, pour ces raisons, l'annonce dans la communauté de Bethel, qui jouxte le lieu-dit de White Lake, qu'un immense festival de musique va attirer des centaines de milliers de chevelus venus, entre guillemets, célébrer la paix, va déclencher chez certains des réactions qui vont être tout sauf pacifiques. Et puis, évidemment, circule la rumeur, pas totalement infondée, il faut le dire, que ces chevelus sont tous drogués, crasseux, et qu'ils n'hésitent pas à se mettre nus comme des bêtes. Oui, la menace se précise. Pour autant, comme le chantent cette année-là les Rascals, un très bon quatuor new-yorkais formé par des garçons d'origine italienne, c'est entre rock, pop, psychédélique, un peu de jazz, de musique latine, je cite la chanson « Même si les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, l'amour est l'unique chose que je vois ». Pour autant, d'autres forces s'organisent, et oui, il y en a d'autres qui voient d'autres choses arriver et qui sont déterminés à tout faire pour ne pas se laisser envahir. En attendant, les Rascals dans Sea, un des grands succès de l'année 69.
Echoes of the
C'était les Rascals en 1969. Les Rascals, un groupe new-yorkais absent du festival de Woodstock, pourtant un des meilleurs du moment. Mais enfin, hélas, ils étaient, il faut dire, en perte de vitesse malgré cette chanson qui fut un de leurs derniers succès. Alors, j'évoquais l'hostilité que suscite chez certains la tenue imminente à White Lake de ce qu'on continue et continuera à appeler le festival de Woodstock malgré ce changement de lieu dont je vous ai parlé. On a du mal à mesurer aujourd'hui la violence, voire la haine auxquelles sont alors confrontés les organisateurs et tous ceux qui travaillent dans leur équipe, et puis plus largement les hippies qui traînent déjà sur les lieux. Il y a un jeune homme du nom de Elliot Tiber, qui est alors propriétaire avec sa mère de l'El Monaco International Resort à White Lake, un motel qui se révélera comme la plaque tournante du festival. C'est là que les organisateurs implantent au printemps leur quartier général, c'est là qu'ils tiennent leurs réunions et improvisent au jour le jour la logistique, on le verra, extrêmement chaotique des événements. Tiber est également le jeune président de la chambre de commerce de Bethel, donc sa voix évidemment a un certain poids malgré sa jeunesse. Juif et homosexuel, il attire les foudres de certains citoyens qui ne supportent pas qu'on organise sur leur terre un rassemblement de jeunes drogués, qui plus est traîtres à leur patrie, et encore plus susceptibles, ça c'est encore plus dangereux, de se promener nus et de se livrer à des orgies répugnantes. Dans son autobiographie « Taking Woodstock », en français « Hôtel Woodstock », on en a fait un film il y a une dizaine d'années, Elliot Tiber raconte la vague de haine à laquelle lui et ses parents sont alors confrontés. Des citoyens furieux de Bethel viennent nuitamment peindre des croix gammées, et oui, sur les murs du motel où environ 200-300 personnes se sont installées. D'autres, les mêmes vraisemblablement, téléphonent anonymement et menace, bande de sales juifs, puants, on va venir brûler votre motel. Alors on imagine ce que ça aurait été si les réseaux sociaux avaient existé à l'époque. Tous les jours, il y a même une femme qui vient proférer des menaces, alors elle, à visage découvert, elle proclame qu'elle a le bras long, qu'elle connaît un juge à Hoboken, dans le New Jersey, qu'elle habite juste en face de chez le cousin de Frank Sinatra, et qu'ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et de fait, ils voient. Il y a une série d'inspecteurs qui surgit, comme par enchantement, pour vérifier si les installations du motel sont bien conformes à toutes sortes de réglementations et arrêtés. Ils pointent bien sûr une série de défauts et anomalies, le contraire aurait été surprenant. Mais, dès lors que un des trois organisateurs du festival, Michael Lang, aura ouvert un compte à la banque locale sur lequel il aura versé 250 000 dollars en cash, eh bien, étrangement, ces menaces à la santé publique se sont évaporées.
Oh,
Entre soul psychédélique et puis ce qu'on a appelé le bubblegum, une variété entraînante destinée à un public d'enfants, une chanson qui fut une des plus diffusées en cette année 1969, Medicine Man, signée par un trio new-yorkais qui s'appelait les Buchanan Brothers. Ils n'étaient pas frères et aucun d'ailleurs ne s'appelait Buchanan. Et ils ont travaillé par la suite avec Jim Croce, un merveilleux chanteur et compositeur de Philadelphie, entre country et folk, disparu, hélas, prématurément. Alors, malgré les menaces que j'évoquais tout à l'heure, dès la mi-juillet, des quatre coins des États-Unis déferlent, à pied, à cheval et en voiture, des hordes de freaks, parfois hirsutes, pieds nus, drogués ou prônant l'amour libre. Alors, sur une voiture, certains ont par exemple peint le slogan « Encourager la nudité parmi les fleurs ». Voilà. Programme alléchant. 15 jours avant le début du festival, le conseil municipal de Bethel tente encore d'interdire l'événement. Lors d'une réunion publique où Michael Lang est présent, Elliot Tiber tente de convaincre des habitants obtus ou hostiles que le festival est en fait une chance historique et qu'il va faire pleuvoir une manne sur la communauté. Voici ses propos. Notre ville est dans un état comateux. Il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas d'entreprise. La ville ne lève aucun impôt pour nous offrir les équipements qu'il nous faut. On est tous en train de crever. Et là, regardez, c'est quoi ? C'est un miracle qui surgit. C'est une poule aux œufs d'or qui vient de se poser dans la ferme de Max Yasger. Et elle va nous donner assez d'œufs pour nourrir tout le monde. Mais imaginez, ça pourrait devenir un festival qui aurait lieu tous les ans, comme à Édimbourg, en Écosse. Tous les ans, on aurait des touristes et des revenus. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur ? Quoi ? Les cheveux longs ? La musique hippie ? Un discours qui pourtant, selon son témoignage, ne rassure en rien les citoyens hostiles qui se remettent à protester et certains même à vociférer. Non, ils veulent ni des cheveux longs, ni de la musique hippie à aucun prix. C'est alors que, bon, une voix qui a plus d'autorité, celle de Michael Lang, qui prend à son tour la parole. Il promet l'organisation irréprochable de ce festival. Il dit « Nous sommes parfaitement en règle, nous respectons toutes les lois municipales, celles du comté et celles de la nation. On s'engage à réparer à nos frais tous les dommages et dégradations qu'entraînera le déroulement du festival. » Et puis Michael Lang sort ensuite son arme maîtresse. Une fois les trois jours de paix et de musique terminés, il offrira 25 000 $ à la municipalité de Bethel, libre à elle d'en disposer comme elle l'entendra. Alors, un court instant, cette annonce réduit les voix hostiles au silence. Alors, Michael Lang en profite pour pousser son avantage. Voilà, vous voyez, on est en train de monter un centre de télécommunication international au motel El Monaco ainsi qu'à la ferme de Max Yasger. L'impact du festival va être mondial. La publicité que ça va entraîner, mais vous imaginez pas, ça va faire pleuvoir des millions de dollars sur les trois comtés de White Lake, Bethel et Sullivan. À partir de là, vous allez voir affluer des entreprises, des investisseurs, des touristes, des visiteurs. Ça va être la porte ouverte à une renaissance pour laquelle les habitants de petites villes touristiques comme Bethel, mais ils prient tous les jours pour ça. Alors là, il a prononcé un mot qu'il ne fallait pas prononcer, prier. L'évocation de la prière, ça fait bondir un citoyen outré qui se met à hurler. Bande de corrompus, mafieux, communistes, dégénérés, pervers. Mais c'est trop tard. Michael Lang a gagné la partie et les forces hostiles à la tenue du festival à White Lake ont perdu. D'autant que Max Yasger, le propriétaire du terrain, dont la voix fait quand même autorité dans la communauté, s'est levé à son tour pour prendre la parole. Il assure que les organisateurs lui ont donné toutes les garanties nécessaires et qu'ils se sont engagés à tout remettre en état une fois les festivités terminées. Alors malgré les appels de certains qui l'accusent de s'être fait corrompre et qui appellent au boycott des produits de sa ferme, eh bien plus rien ne peut arrêter le festival. Pour autant, ses ennemis ne désarment pas.
winter's day in the rain. White bird in a golden cage, alone. The leaves blow across the long black road to the darkened sky in its rain.
Thank you.
Je vous l'avais promis tout à l'heure, The Age of Aquarius, un des airs les plus connus de la comédie musicale Hair, couplé à un autre air de la même comédie musicale, Let the Sunshine In, interprété par un excellent groupe vocal californien, The Fifth Dimension, qui avait d'ailleurs pour particularité d'être multiracial. Ce couplage de deux chansons de Hair a été numéro 1 aux États-Unis en ce printemps 1969. Alors juste avant, c'était White Bird, c'est la chanson la plus connue d'un groupe de San Francisco qui venait tout juste de se lancer, un groupe dont le nom était It's a Beautiful Day. Il avait pour particularité d'être animé par un violoniste de formation classique, David Laflamme, qui chantait, vous avez entendu une très belle voix de crooner, qui chantait en harmonie avec sa femme Linda, qui jouait des claviers. Alors, à la mi-juillet, un mois avant que ne se tiennent les 3 jours de musique et de paix à White Lake, eh bien le chaos est partout. Alors, vu de loin, tout pourrait paraître normal. Des billets pour les 3 jours de festival à $18 ont été mis en vente dans les magasins de disques, chez les marchands de journaux, au guichet de certaines salles de concert. Mais sur place, c'est déjà l'invasion. Une ville improvisée, faite de tentes, sacs de couchage, vannes et voitures bariolées, occupent déjà le terrain entourant la ferme de Max Yasger. Les organisateurs ont dressé à la hâte des palissades pour protéger les cultures et pâturages avoisinants. Il est déjà clair qu'elles ne vont pas tenir longtemps et que la foule sera bien plus importante que prévu. Elle déborde d'ailleurs de partout, envahissant les prés qui bordent la route 17B qui conduit à Bethel. L'hostilité de certains habitants vis-à-vis des organisateurs, de leurs équipes et de ceux qui les logent monte de plusieurs crans. On balance devant leurs bungalows des seaux d'ordures et de purin. On jette des pierres contre les fenêtres, des slogans orduriers sont peints sur les murs, on menace même d'empoisonner les puits et de détruire les pompes qui alimentent en eau potable cette population de jeunes gens qu'on n'a pas renoncé encore à faire fuir. Alors à Bethel, vous imaginez, la tension est à son comble. Les quelques épiceries où en général il n'y a pas plus de 2 ou 3 clients à la fois sont envahies. On fait la queue pour acheter de l'eau, du savon ou du papier hygiénique. Les bouteilles de soda, les cartons de lait, les sachets de pain tranchés deviennent vite des denrées rares. Les prix, évidemment, se mettent à flamber. Et au motel El Monaco, Elliot Tiber et ses parents doivent faire face. Ils font venir 2 camions de nourriture et de boissons, autour desquels une masse de hippies se presse dans la confusion la plus totale. Leur contenu, évidemment, se révèle dérisoirement insuffisant. Les Tiber installent même sur place une infirmerie de fortune où l'on doit soigner les coupures et blessures légères. Et oui, elles sont fréquentes chez ces urbains qui n'ont pas l'habitude de la campagne. Beaucoup marchent pieds nus et le sol est jonché de tessons de bouteilles et de languettes de canettes ouvertes, coupantes. Sans parler des mauvaises réactions aux diverses drogues qui circulent déjà. Alors, il y a des rumeurs effrayantes qui parcourent cette vaste communauté sauvage. On prétend que des Hells Angels pratiquent le vol en bande, le viol collectif aussi, et le meurtre. Voilà, jusque-là. Alors, ces rumeurs sont sans doute destinées à faire fuir celles et ceux que des habitants hostiles accusent, parfois, en effet, c'est pas tout à fait à tort, de pratiquer le nudisme, le sexe collectif et de se droguer du matin au soir et du soir au matin. Alors, à quelques jours du festival, un groupe particulièrement acharné, prétendant représenter les commerçants et propriétaires du lieu, annonce qu'il va former une chaîne humaine destinée à bloquer la route et l'accès à White Lake. La confrontation semble imminente. Et c'est là que Michael Lang a une idée de génie. Doté d'un excellent sens de la publicité, il a offert au motel El Monaco de grandes chambres aux envoyés des plus importantes chaînes de télévision et de radio nationales. Il a suggéré à Elliot Tiber de lancer un appel sur les ondes de la radio NBC. Dit à tout le pays qu'il faut venir au festival maintenant, tout de suite, là, qu'il n'y a pas une minute à perdre. Dis-leur qu'on est entouré de ces politicards pourris et de leurs chaînes humaines, leurs barricades. Dis-leur que rien ne va nous arrêter, que le festival va avoir lieu, que c'est la naissance d'une nation. Voilà, la nation de Woodstock. Alors Tiber relaie le message en l'amplifiant. Voici ce qu'il dit. Venez tout de suite à Bethel si vous voulez avoir votre espace à la ferme de Max Yasger. Alors s'il y a des gens qui essaient de vous bloquer, ben contournez-les. Ou alors garez votre voiture et arrivez à pied. C'est tout droit depuis Bethel jusqu'à la ferme de Yasger. On vous attend. Et il ajoute ces paroles qui vont faire se lever toute une nation. les organisateurs ont décidé que pour tous ceux qui vont arriver à partir de maintenant au festival de Woodstock, les concerts seront gratuits. C'est bien autre chose qu'un festival de musique et d'art. C'est la naissance d'une nouvelle nation, la nation de Woodstock. Nous sommes contre la guerre, nous célébrons la liberté, la musique et les droits civiques pour toute la population.
The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease, in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!
Se quitter, l'évocation par l'Écossais Donovan, un grand absent du festival de Woodstock, du continent englouti de l'Atlantide. La chanson s'appelait Atlantis, un des succès de l'année 1969. La prochaine fois, on se retrouvera et c'est promis, les trois jours annoncés de paix et de musique vont enfin commencer. Le rideau va s'ouvrir sur ce festival Woodstock dont le nom deviendra un mythe et qui à chaque minute oscilla au bord de l'abîme et du chaos, sans jamais y sombrer. Je remercie Marie-Hélène Fauquet qui a réalisé l'émission. Rémi Sistiaga était à la technique. Et je remercie particulièrement pour son fervent soutien Mathilde Verfaillie. Je vous dis au numéro prochain.